La bibliothèque orbitale, épisode 27. Résumé de l'épisode précédent, la situation est grave et même désespérée. Mais où est donc passé Pitou, se demande une foule que l'angoisse gagne un peu plus chaque jour. Where the fuck is Pitou, s'interroge-t-on outre-Atlantique. Pitou vaut bisdou, s'inquiète-t-on de Mönchengladbach à Baden-Baden. Et pareil dans plein d'autres pays, mais je suis pas polyglotte. A-t-il péri au cours d'une mission plus périlleuse que les autres? A-t-il été kidnappé par quelque infâme maître du crime? A-t-il été effacé de l'histoire par une quelconque manipulation temporelle? Est-il coincé sur une lointaine planète désertique, sans moyen de regagner la civilisation? Rien de tout cela. En fait, Pitou s'est accordé une petite escapade romantique en compagnie de sa chère et tendre épouse, Solange Pitou, afin de fêter dignement leur 500e anniversaire de mariage. Eh oui, 500 ans déjà, Dieu que le temps passe vite quand on est amoureux. En ce temps-là, la future Madame Pitou se nommait Tezozol Shimal Moctezahual Pilipili, un nom tellement imprononçable que déjà à l'époque tout le monde l'appelait Solange. Solange donc était une princesse aztèque, fille de Nezahualcuat Coyolo Caxcala Popoca, que nous appellerons Maurice parce que ça va bien 5 minutes les noms exotiques. Pitou avait été envoyé à Tenochtitlan en 1511 à la recherche d'une bande de criminels temporels âgés d'une dizaine d'années à peine et qui faisaient rien qu'à réécrire l'histoire dans l'espoir vain d'améliorer leurs notes aux interros de Madame Maflu, leur prof d'histoire géo. Et c'est l'amour que trouva Pitou lorsqu'il vit Solange pour la première fois, nimbé d'éclats de pourpre et de rose dans les premiers rayons d'un soleil qui pointait déjà par-delà les lointaines déchirures de l'horizon à 5h42 en cette période de l'année. Ce fut le coup de foudre, et le couple fut marié en ce mois de décembre de l'an de grâce 1511. On les inonda de cadeaux, on immola à leur gloire 700 chèvres, 6000 dindons, 12000 hamsters et tout un tas de grabataires qui encombraient plus qu'autre chose. Après une nuit de noces qui dura jusqu'en avril 1516, Pitou ramena Solange à son époque, où comme on le sait, ils eurent un enfant, Kevin Pitou, et où ils vivent depuis un amour comme on n'en trouve que dans les romans à l'eau de rose les plus gluants ou dans les podcasts les plus navrants. Voilà donc 3 semaines que Pitou et Solange ont fui le monde pour faire des galipettes dans les plus acrobatiques des positions, lorsque soudain, pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, après avoir vidé tellement de litres de tequila qu'il se demande ce qu'il fout dans une station spatiale russe abandonnée, observe par le hublot la Colombie qu'il est en train de survoler et où se déroule « Doré d'émeraude », le deuxième roman d'Eric Holstein.
¿Cómo corremos?
Llegó el desorden.
Ya llegó.
¿Cómo corremos?
Corramos ya.
Todo se cae.
Cayendo está.
Décembre étant un mois calme côté nouveauté, c'est l'occasion de donner un bon coup de pompe dans les piles de livres à lire qui s'entassent depuis des mois, entre la table de nuit et la litière du chat, et de voir ce qui en tombe. Des fois, c'est des trucs atroces, écrits avec un peigne sans dents par un prof de sport dyslexique en disponibilité, et qu'il est conseillé de laisser macérer quelques années de plus, au moins le temps que l'acidité de la prose du diplumitif finisse de dissoudre l'opuscule en question. Et d'autres fois, on tombe sur des trucs qu'on se demande vraiment pourquoi on les a laissés traîner aussi longtemps. Par exemple, D'or et d'émeraude, le deuxième roman d'Eric Holstein, paru en début d'année aux éditions Mnemos. Eric Holstein avait publié en 2009 un premier roman, Petits arrangements avec l'éternité, une très chouette série B à base de vampires psychiques et de gouailles typiquement parisiennes. Je vous ferai remarquer au passage que le livre vient de ressortir en poche chez J'ai lu, et franchement, pour qui ne l'a pas lu, il y a des façons beaucoup plus connes de dépenser 6,70€. Mais revenons au petit dernier, D'or et d'émeraude, qui se situe dans un registre un peu plus différent. Cette fois, Eric Holstein quitte Paris pour Bogota, où il se propose de revisiter l'histoire de la Colombie, et plus généralement de l'ensemble de l'Amérique du Sud. Le roman se divise en trois parties nettement distinctes. La première met en scène Simon, un jeune type né en Colombie mais qui a grandi en France après avoir été adopté. Une situation qu'il a toujours bien vécue, jusqu'à ce que lui prenne l'envie de faire un pèlerinage sur le lieu de ses origines. Il découvre un pays et une culture qui lui sont totalement étrangers, mais avec laquelle il va progressivement se familiariser, jusqu'à jouer un rôle auquel il ne s'attendait pas. La deuxième partie du roman nous ramène 5 siècles plus tôt, au temps où les premiers Européens découvraient le continent. On y suit le périple de Gonzalo Jiménez de Quesada, le futur fondateur de Bogota, à la tête d'une troupe hétéroclite et à la conquête de ce nouveau monde. Sauf que les choses ne vont pas exactement se passer comme dans les livres d'histoire. Dans la dernière partie du roman, retour au présent, mais le pays et les personnages qu'on y découvre ne sont pas ceux qu'on avait laissés 100 pages plus tôt. Que s'est-il passé entre-temps ? Là est toute la question. D'or et d'émeraude se présente donc sous les formes successives du récit d'un homme à la recherche de ses origines, d'une fresque historique et d'une uchronie. Présenté comme ça, on pourrait avoir l'impression d'avoir affaire à un livre décousu et sans véritable ligne directrice. C'est pas totalement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. D'abord, il faut noter que chaque partie du roman tient parfaitement la route indépendamment des autres. Dans la première partie, Eric Holstein évite tous les clichés touristiques dans sa description de Bogota et met en scène une galerie de personnages auxquels on s'attache très vite. L'histoire de Quesada, ensuite, offre quelques très beaux morceaux de bravoure et s'appuie en outre sur un travail de documentation assez remarquable. Quant à la dernière partie, en matière d'uchronie, c'est un des univers les plus étonnants et exotiques que le genre a pu nous donner. Chaque partie du roman fonctionne bien, donc. Mais elles sont à ce point différentes que, malgré les liens qui les unissent, elles peinent à s'assembler pour former un tout. Le roman n'arrive pas en définitive à être plus que la somme des parties qu'il compose. Alors, encore une fois, qu'on ne s'y trompe pas. Tel qu'il est, D'or et d'émeraude contient suffisamment de bonnes choses pour en faire une lecture extrêmement recommandable, et l'un des meilleurs romans français parus cette année. Reste juste ce léger sentiment de frustration une fois sa lecture terminée, l'impression qu'Eric Holstein n'est pas passé loin du grand livre, mais qu'il n'a pas totalement réussi son coup. Pas grave, on attendra avec d'autant plus d'impatience son prochain bouquin.